Robert d'Artois s'approche jusqu'à venir contre elle, interroge de haut ses longs yeux qui la défient et brillent dans la pénombre, pose sa large main sur la croupe de la demoiselle, et puis brusquement se retire en secouant les doigts, comme s'il s'y brûlait.
« Hé, belle Béatrice !» s'écrie-t-il en riant. « Allez prestement vous mettre les nachos au frais dans l'étang, car sinon vous allez flamber !»
Cette brutalité de geste, cette grossièreté de parole font frémir la demoiselle Béatrice. Il y a longtemps qu'elle attend l'occasion de conquérir le géant. Ce jour-là, Monseigneur Robert sera à la merci de la comtesse Mao et elle, Béatrice, connaîtra un désir enfin satisfait. Mais ce ne sera pas pour ce soir encore. Robert a plus important à faire. Il gagne son appartement, entre dans la chambre de la comtesse, sa femme. Celle-ci se redresse dans son lit. Elle est nue. Elle dort ainsi tout l'été. Robert caresse machinalement un sein qui lui appartient par mariage. Juste un bonsoir. La comtesse de Beaumont n'éprouve rien de cette caresse, mais elle s'amuse toujours de voir apparaître son mari et d'imaginer ce qu'il peut avoir en tête. Robert d'Artois s'est affalé sur un siège. Il a étendu ses immenses jambes, les soulève de temps à autre et les laisse retomber les deux talons ensemble. « Vous ne vous couchez point, Robert ?»«
Non, mamie, non, je vais même vous quitter pour courir à Paris tout à l'heure, quand ces moines auront fini de chanter dans leur église. »
La comtesse sourit. « Mon ami, ne croyez-vous pas que ma sœur de Hainaut pourrait accueillir quelque temps Isabelle et lui permettre de regrouper ses forces ?»«
J'y pensais, ma belle comtesse, j'y pensais justement. » »«
Allons, madame de Beaumont est rassurée, son mari gagnera. » Ce n'était pas tellement le service d'Isabelle qui mit Robert d'Artois à cheval cette nuit-là, que sa haine pour Mao. La gueuse voulait s'opposer à lui, nuire à ceux qu'il protégeait et reprendre influence sur le roi. On verrait bien qui garderait le dernier mot. Il alla secouer son valet Lormet.
« Va faire sceller trois chevaux, mon écuyer, un sergent. »«
Et moi ?» dit Lormet.
« Non, pas toi. Toi, tu vas retourner dormir. »
C'était gentillesse de la part de Robert. Les années commençaient à peser sur le vieux compagnon de ses méfaits, tout à la fois garde du corps, étrangleur et nourrice. Lormet maintenant avait le souffle court et supportait mal les brumes du petit matin. Il maugréa, puisqu'on se passait de lui, à quoi bon l'avoir réveillé. Mais il aurait bougonné plus encore s'il lui avait fallu partir. Les chevaux furent vite scellés, l'écuyer bâillait, le sergent d'armes achevait de se harnacher.
« En selle !» dit Robert. « Ce sera une promenade !»
Bien assis sur le trousquin de sa selle, il garda le pas pour sortir de l'abbaye par la ferme et les ateliers. Puis, aussitôt atteinte la mer de sable qui s'étendait claire, insolite et nacrée entre les bouleaux blancs, vrai paysage pour une assemblée de fées, il fit prendre le galop. Dammartin, Mitry, Aunay, Saint-Ouen, une promenade de 4 heures avec quelques temps d'allure plus lente pour souffler et juste une halte dans une auberge ouverte la nuit qui servait à boire aux rouliers des maraîchages. Le jour ne pointait pas encore quand on arriva au palais de la cité. La garde laissa passage au premier conseiller du roi. Robert monta droit aux appartements de la reine Isabelle, enjamba les serviteurs endormis dans le couloir, traversa la chambre des femmes qui lancèrent des hurlements de volailles effarouchés et crièrent « Madame, madame, on entre chez vous !» Une veilleuse brûlait au-dessus du lit où Mortimer était couché avec la reine.
« Ainsi, c'est pour cela, pour qu'ils puissent dormir dans les bras l'un de l'autre, que j'ai galopé toute la nuit à m'enlever les fesses, » pensa Robert.
La surprise passée et les chandelles allumées, toute gêne fut oubliée en raison de l'urgence. Robert mit les deux amants au courant rapidement de tout ce qui s'était décidé à Chalice et se tramait contre eux. Tout en écoutant et en questionnant, Mortimer se vêtait devant Robert d'Artois très naturellement, comme cela se fait entre gens de guerre. La présence de sa maîtresse ne semblait pas non plus l'embarrasser. Ils étaient décidément bien installés en ménage.
« Il vous faut partir dans l'heure, mes bons amis. Voilà mon conseil, » dit Robert. « Et tirez vers les terres d'Empire pour vous y mettre à l'abri. Tous deux, avec le jeune Édouard et peut-être Cromwell, Holspé et Maltravers, mais peu de monde pour ne point vous ralentir. Vous allez piquer sur le Hainaut où je vais dépêcher un chevaucheur qui vous devancera. Le bon comte Guillaume et son frère Jean sont deux grands seigneurs loyaux, redoutés de leurs ennemis, aimés de leurs habits. La comtesse, mon épouse, vous appuiera pour sa part auprès de sa sœur. C'est le meilleur refuge que vous puissiez gagner pour le présent. Notre ami de Kent, que je vais prévenir, vous rejoindra en se détournant par le Pontieux afin de rassembler les chevaliers que vous avez là-bas. Et puis, à la grâce de Dieu, je veillerai à ce que Ptolémée continue à vous acheminer des fonds. D'ailleurs, il ne peut plus agir autrement. Il est trop engagé avec vous. Grossissez vos troupes. Faites votre possible, battez-vous. Ah, 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 si le royaume de France n'était pas si gros morceau, où je ne veux pas laisser champ libre aux mauvaisetés de ma tante, j'irai volontiers avec vous.
Tournez-vous donc, mon cousin, que je me vête, dit Isabelle.
Alors quoi, ma cousine? Pas de récompense? Ce coquin de Roger veut donc tout garder pour lui?
Dit Robert en obéissant.
Il ne s'ennuie pas, le gaillard.
Pour une fois, ses intentions grivoises ne parurent pas choquantes. Il y avait même quelque chose de rassurant dans cette manière de plaisanter, en plein drame. Cet homme qui passait pour si méchant était capable de bons gestes, et son impudeur de parole parfois n'était qu'un masque à une certaine pudeur de sentiment.